votre source d'information le matin. Voici Catherine Godreau. Que la Mauricie se lève. Au 106.9 Mauricie.
À 9h38, je voulais prendre le temps de lui jaser ce matin parce qu'on est à 2 semaines de l'élection présidentielle. Puis je trouve que ça prend une drôle de tournure. On va en parler avec Raphaël Jacob, spécialiste en politique américaine, chercheur associé à la chaire Raoul d'Endurance. Salut Raphaël.
Bonjour Catherine.
Raphaël, hier, je voyais les images, entre autres, de Donald Trump. Je l'écoutais, je l'entendais. Là, on est dans les attaques plus virulentes, hein, parce qu'on est passé de parler de Joe Biden en parlant de Sleepy Joe. Là, hier, c'était le politicien le plus corrompu de l'histoire. La famille Biden est une entreprise criminelle. Là, il s'en prenait aux journalistes en les pointant. Vous-même, ouais. Vous êtes des criminels, parce que vous ne rapportez pas la nouvelle. On s'en va où avec ça?
On s'en va rapidement vers le mur, Catherine, pour être direct, là. Pas juste au niveau du ton, mais honnêtement, au niveau du résultat. Ça sent à la fois la panique et, dépendant à qui on parle au sein de la campagne Trump, là, la résignation aussi. Et le président a un ton, effectivement, qui est de plus en plus agressif. Et en même temps, ce qui est également vrai, c'est que tout au moins sur une base privée, de plus en plus de ses conseillers et des gens proches de son entourage qui voient ce qui est en train de se passer essentiellement comme l'équivalent d'un avion qui est en train de s'écraser. Et donc, on est déjà en mode, là, essayer de sauver les meubles, essayer de faire en sorte que l'avion atterrisse le plus doucement possible. Autrement dit, qu'on limite les dommages le 3 novembre, mais on parle beaucoup, beaucoup moins de victoires potentielles. On est vraiment dans cette dynamique-là 2 semaines.
OK. Parce que si tu regardes les sondages actuellement, est-ce que c'est encore à la baisse ou ça se maintient?
Ben, c'est-à-dire qu'au niveau national, et je comprends d'emblée que ça se joue pas sur la base nationale,
non,
là, mais il reste que Joe Biden a quand même une avance d'encore à peu près une dizaine de points, ce qui est extrêmement élevé. Là. Ça, c'est quelque chose que je répète quoi, depuis des mois, incluant à ton micro. Si Donald Trump perd par 10 points à l'échelle nationale, ça va être la pire performance pour un président sortant depuis 1932. Là. Donc, il faut quand même se positionner, avoir une petite idée de l'ordre, de l'écart entre les deux hommes présentement. Donc, il y a ça. Et dans les États-clés, c'est vrai que dans les tout derniers jours, il y a eu un certain resserrement dans certains États, mais quand tu regardes la carte électorale, Biden est encore très largement en avance, très largement favori, ce qui ne garantit évidemment rien. On se rappelle tous de l'espèce de choc mondial qu'on a eu il y a 4 ans, mais encore une fois, faut pas se leurrer. On n'est pas dans une course qui est au coude à coude, même pas proche de là. On est dans une course où il y a quelqu'un qui est très largement favori, et c'est M. Biden.
Là, hier, en plus, là, je parlais de son ton et de ses propos envers Biden et même la famille Biden, mais il s'en est pris également à Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. En fait, il s'en est pris pas mal à tous les spécialistes et les scientifiques aux États-Unis.
Ce qui est, honnêtement, là, complètement bête, ne serait-ce que pour ses propres besoins, ses propres fins électorales, parce que tout ce qu'il projette, pratiquement depuis le début de la crise du coronavirus, qui est maintenant un des enjeux les plus importants pour les électeurs depuis des mois, c'est du chaos. C'est une image de chaos, de zizanie au sein de sa propre équipe. Et là, il y a les propos du président envers le Dr. Fauci, mais aussi tous les reportages qu'on entend depuis les derniers jours, comme quoi c'est justement la chicane, la bisbille au sein de son équipe de conseillers. Certains qui veulent en faire carrément virer d'autres. Donc, on a une espèce de lavage de linge sale en public. Ça, c'est vrai au niveau de son équipe de conseillers présidentiels sur le coronavirus. Et c'est vrai, je te dirais, de façon encore plus large au sein du Parti républicain à Washington. Donc, ce qu'on a depuis à peu près une semaine, ce sont maintenant 2 sénateurs républicains, 2 des plus importants membres du caucus républicain au Sénat, qui sont sortis sur la place publique pour exprimer de sérieuses doléances par rapport à Donald Trump. Un qui s'est lancé carrément dans une tirade contre le président. Ce dernier qui a entendu les commentaires et le connaissant, ça ne te surprendra pas d'entendre qui l'a répliqué, notamment sur Twitter. Donc, qu'est-ce que ça projette aux électeurs? Ça projette l'image d'une Maison-Blanche, d'un parti, d'une administration qui sont essentiellement en guerre ouverte et qui sont surtout dysfonctionnels. Ça, 2 semaines du vote, d'habitude, quand un parti qui agit comme ça, règle générale, c'est pas parce qu'il est en train de gagner la course.
Non. Dis-moi, Raphaël, puis bon, tu suis ça évidemment plus que moi, tu t'y connais pas mal plus, mais ce que dans les discours de Trump, ben, ceux qui l'aiment, ses partisans qui se rassemblent, qui vont le voir, qui veulent l'entendre, on sait que ce qui est populaire, notamment chez ses partisans, c'est lorsqu'il parle de sécurité. Il va parler du mur, il va parler de l'armée. Mm-hmm. Ça, c'est des discours qui plaisent. Est-ce que ces discours-là plaisent encore? Est-ce que ceux qui l'aiment encore davantage ou même autant qu'avant? Mm-hmm.
C'est la question qu'on pose depuis 4 ans. Premièrement, est-ce que sa base est encore avec lui? Puis si oui, comment est-ce possible avec toutes les controverses, tous les scandales, etc.? Bon, la réponse simple, c'est que oui, très largement, sa base est encore avec lui. En fait, son taux d'approbation fléchit à peu près pas, il bouge à peu près pas. Mais ce qui est également vrai, c'est que cette base-là, cette fameuse base-là, elle ne suffit pas. Quand tu regardes les sondages, et écoute, j'en regardais encore ce matin, national, c'est le même portrait qu'on a mois après mois après mois. C'est-à-dire que tu as à peu près 90% des électeurs républicains qui sont encore avec Trump. Donc, son noyau dur, il est encore là. Le problème et la grosse différence avec 2016, c'est que les électeurs qu'on dit indépendants, autrement dit, les électeurs qui ne sont pas officiellement affiliés avec soit le Parti démocrate, le Parti républicain, sont ceux qui sont un petit peu au centre, si on veut. Il y a 4 ans, on l'oublie, mais ils avaient voté pour Trump face à Hillary Clinton. Là, cette année, ils semblent donner une très grosse marge d'avance à Joe Biden. Donc, les gens qui n'étaient pas, disons, complètement du côté de Trump il y a 4 ans, peu en bonne partie, ils ont quitté le navire. Et c'est ça le problème du président, c'est que, justement, avec ce langage-là, qui est conçu pour une chose et seulement une chose, c'est-à-dire faire appel à sa base, mais c'est bien beau, il la consolide, mais il perd d'autres mondes dont il a besoin pour gagner aussi en même temps.
En terminant, Raphaël, as-tu l'impression que beaucoup d'Américains, il y en a qui ont déjà commencé à voter ou qui vont voter pour Joe Biden, mais un peu par dépit? Est-ce qu'il y a une forte proportion d'Américains qui vont dire « Ouais, ben, regarde, on va voter pour lui. » C'est comme le moins pire des deux. Tu sais, j'ai pas l'impression que M. Biden, je le connais pas tant que ça, mais c'est pas un grand leader. Tu sais, c'est pas celui qui... C'est pas un rassembleur. Dans les discours, c'est pas un Barack Obama, puis ça veut pas dire qu'il a pas ses qualités, mais tu comprends? Ça se peut-tu qu'on vote beaucoup par dépit?
Non seulement ça se peut, c'est en fait exactement ça.
C'est ça.
Donc, lorsqu'on regarde les données, c'est immanquable. Donc, on ne pourra pas, même si c'est assurément ce qu'on va essayer de faire du côté démocrate, là, du côté du camp de M. Biden, on ne pourra pas prétendre qu'on a un grand mandat là, au lendemain du 3 novembre, présumant qu'on gagne. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu l'équivalent d'avoir un candidat générique. Tu aurais mis une plante verte avec le mot démocrate à côté. Il serait probablement dans la même position. Non, mais écoute, je te laisse là-dessus très sérieusement. Si ça se concrétise le 3 novembre et Joe Biden gagne, Catherine, de nos vivants, ça va être la première fois qu'on va avoir vu quelqu'un gagner la Maison-Blanche par défaut. Là.
Ouais, c'est,
c'est carrément
absolument.
Ça. C'est carrément ça. Le type ne fait même pas campagne à toute fin pratique. Donc, c'est remarquable, mais ça semble être en train de se produire.
Là, il y a un débat jeudi, Raphaël, le prochain?
Présumant et espérant que c'est un débat. Et non pas un cirque, comme la première
fois,
absolument.
Au moins, on va couper les micros, soir, c'est ce qu'on disait hier.
Oui. Mais attention, c'est-à-dire que ce qu'on a annoncé il y a quelques heures, c'est qu'on allait couper les micros pendant la première réponse de chaque candidat à une question. Après ça, on les ouvre. Donc, écoute, ça risque d'être moins pire qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, mais je pense pas que ça va être la grande harmonie et le grand respect pendant 90 minutes non plus.
Je penserais pas. Merci de la précision. Tu vois, j'avais mal compris. Alors, c'est bien que tu le précises. Merci, Raphaël. On suit ça de près.
Avec plaisir. Bye-bye.
Salut, bye-bye. Raphaël Jacob, spécialiste en politique américaine et chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand.